J'ai essayé tout à l'heure de vous rappeler le grand mystère de la connaissance dans le Christ. Ce que l'Apocalypse dit d'une manière symbolique, mais d'une manière très belle. Et les quatre vivants ont chacun d'eux six ailes. Et tout autour et au-dedans, ils sont pleins d'yeux. Je trouve ça très beau. Christ est la lumière, parce qu'il est le Verbe. Et cette lumière s'est incarnée et elle n'a rien perdu de sa lumière. Notre corps, très facilement, nous épaissit et nous rend opaque. À tel point que le vieil Aristote, et saint Thomas reprend la formule, la plupart des hommes manent insensibus. La plupart des hommes demeurent dans leur sens. C'est pas drôle. Ils demeurent. Vous voyez, c'est l'été noir. C'est, si vous voulez, les lanternes de repos, de secours. Pas les phares. L'intelligence, pour la plupart des hommes, ne s'éveille pas. Ça reste au ras des pâquerettes. Pas beaucoup plus loin. On est très occupé par d'autres choses. C'est pas commode de remonter à la source. En Jésus, c'est ça qui est peut-être le plus étonnant, c'est un des aspects les plus beaux. De voir tous ses yeux dans le Christ. Mais c'est le regard du Christ qui a étonné le plus saint Jean. Et c'est le regard du Christ que saint Jean souligne dans cette vision qu'il a de Jésus dans la gloire. Il souligne ce regard du Christ. Parce que je crois que c'est ça qui est resté le plus dans le point de vue de saint Jean. Quand il nous dit cette première vision de Jésus, et ses yeux comme une flamme de feu. Une flamme de feu. Le regard du Christ. Le regard du Christ à la croix sur Jean et sur Marie. Une flamme de feu. C'est la grande vision de Jésus dans la gloire. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 12. Et en même temps, il y a tout l'aspect affectif dans le Christ. Et c'est surtout cet aspect affectif dont je voudrais vous parler ce soir. Notre capacité d'aimer et la capacité d'aimer dans le Christ. Et tous les niveaux de notre amour. Je commence par le point de vue le plus sensible, parce que celui-là c'est le plus évident, la passion amour. Oui, et là aussi, saint Thomas est merveilleux. Il est le premier théologien qui ose dire et affirmer que les passions existent dans le Christ. Avant lui, en raison de l'influence stoïcienne, on n'osait pas dire que les passions étaient dans le Christ. Parce que pour les stoïciens, les passions sont mauvaises. Il faut arrêter toutes les passions. Les stoïciens font que les hommes deviennent rigides, durs. Épictète n'hésite pas de dire que tout ce qui ne dépend pas de nous doit nous laisser complètement indifférents. Or, mon ami meurt d'un accident, ça ne dépend pas de moi. Donc, ça doit me laisser complètement indifférent. C'est ça, le stoïcisme. Le stoïcisme poussé à l'extrême. La morale stoïcienne se coupe, divise en deux. Ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi. Ce qui ne dépend pas de moi, ça ne doit pas me toucher. Quelqu'un devant moi tue un autre, ça ne dépend pas de moi. Il ne va pas demander de permission. Donc, indifférent, je continue mon chemin, sans m'arrêter. Ça va très loin, ça. Bien, la morale stoïcienne qui était à Rome, en l'an 50, Épictète enseignait le stoïcisme à Rome. Épictète, l'esclave devenu philosophe. Aujourd'hui, ce serait le plus grand des philosophes. L'esclave devenu philosophe. Toi, c'est sûr, il aurait tous les galons d'être esclave et philosophe. Donc la sagesse, et puis en même temps d'avoir été esclave. C'est du reste très beau, il faut le reconnaître. Un esclave devenu philosophe, à Rome. Il était grec, il parlait grec. Lui, esclave, à Rome. Il a des choses merveilleuses sur les sénateurs de Rome. Vous vous croyez libre, mais pas du tout. Vous êtes dépendant de vos électeurs. Ça reste toujours vrai. Et il leur dit ça avec vertement. Et on allait le consulter. On allait lui demander conseil. En l'an 50, Épictète, à Rome, enseignait le stoïcisme. Et les premiers pères de l'Église ont été marqués par le stoïcisme. Le stoïcisme a pénétré dans la morale chrétienne. On ne peut pas nier ça. Le stoïcisme est une des grandes morales qui a pénétré jusqu'à nous. Aristote, lui, c'est la morale du bonheur et de l'amour. Et ça a mis du temps. Pour Aristote, les passions ne sont pas mauvaises. Il dit même que l'insensibilité, c'est la pire des choses. C'est terrible, l'insensibilité. Des gens insensibles, on a envie de temps en temps marcher sur leurs pieds pour voir s'ils réagissent. Vous savez, c'est comme les chrysalides qu'on découvre dans la terre. Est-ce qu'elles sont vivantes ou pas vivantes? Il faut mettre son doigt dessus pour voir si ça bouge. Il y a des gens comme ça. Il faut quelquefois mettre... leur écraser les pieds pour voir si c'est vivant, si ça réagit. Bien, saint Thomas, à la suite d'Aristote, montre que les passions, c'est quelque chose d'humain. Et donc, si Jésus est l'homme parfait, il y a les passions dans le Christ. Et pour ceux qui ne connaissent pas saint Thomas, c'est le bon moyen d'entrer dans saint Thomas. C'est son traité des passions. C'est très très beau. J'ai fait une fois ce traité des passions à Paris, devant des Freudiens. Ils étaient tout étonnés. Au Moyen-Âge, on connaissait tout ça. Ils disent oui, oui, on connaissait tout ça. Et on analysait les passions avec plus de finesse qu'on les analyse aujourd'hui. Beaucoup plus de finesse. Pour saint Thomas, il y a 11 passions. Hein? Cherchez ça chez les psychologues, les 11 passions. 11 passions qui s'enchevêtrent. Il y a le concupiscible et l'irascible. Le concupiscible et l'irascible sont dans le cœur du Christ. Ils sont dans son cœur humain. Jésus pleurait devant la tristesse de Marie, la sœur de Lazare. Il a pleuré. Jésus a pleuré en regardant Jérusalem. En pensant à la destruction de Jérusalem. Vous voyez la sensibilité de Jésus, semblable à celle de Marie, les passions du Christ, les passions de Marie. Donc il y a tout cet aspect affectif, sensible, passionnel. Et toutes les passions sont commandées par la passion de l'amour. C'est très beau, parce que s'il y a 11 immense passion. On peut dire qu'il y a 10 visages de l'amour. Et chacune des passions est un visage de l'amour. C'est une expression d'amour. Même la haine. Vous savez bien, s'il n'y avait pas d'amour, il n'y aurait pas de haine. Et la haine, c'est le contraire de l'amour. C'est un amour qui n'a pas pu aller dans sa réalisation. Alors à ce moment-là, il y a une espèce d'opposition violente. C'est la haine. La haine est une passion. Le désir est une passion. La joie est une passion. La tristesse est une passion. L'audace est une passion. L'espérance, passion. 11 passions. C'est très très grand ça. Tout le côté affectif, sensible du Christ. Que nous découvrons quand nous regardons l'Écriture. Ces passions sont dépassées par un amour plus fort, l'amour volontaire, la volonté pour saint Thomas, et je crois qu'il a raison, parce que c'est Descartes qui a flanqué tout ça à la porte. Pour saint Thomas, la volonté est un appétit spirituel. Notre première capacité d'aimer. Vous voyez, à la suite de saint Augustin, saint Thomas n'hésite pas de dire que celui qui veut aimer, aime. C'est pas du volontarisme. C'est pas du tout le volontarisme thoïcien. Celui qui veut aimer, aime. Parce que l'amour spirituel est volontaire. Et que notre capacité d'aimer au plan spirituel, c'est notre volonté. Il n'y a pas que l'amour passionnel, vous voyez. Descartes met l'amour au niveau passionnel, au niveau du sentiment. Pour lui, la volonté est uniquement une capacité d'efficacité. C'est terrible, ça. L'homme volontaire, c'est celui qui veut réaliser quelque chose. L'homme volontaire, ce n'est pas celui qui aime. Alors, on ramène tout à cet aspect terrible de l'efficacité. Et l'amour, c'est uniquement une question de sentiment. Je ne sens rien dont je n'aime pas. Vous voyez, hein, constamment on dit ça. C'est pas ça l'amour. C'est bien plus grand que ça l'amour. C'est cette volonté de se donner au-delà de ce que nous sentons. L'amour est au-dessus de la joie et de la tristesse. L'amour est au-dessus de la présence et de l'absence. L'amour, c'est un lien profond qui nous prend au plus intime de notre cœur, de notre volonté, et qui fait qu'on se porte, on veut se porter tout entier vers celui qu'on aime. On se donne. Et en même temps, on accueille. L'amour implique cet accueil, implique ce don. Il y a cette réciprocité merveilleuse dans l'amour d'amitié. Et c'est quelque chose d'ordre spirituel. La volonté liée à l'intelligence est source de liberté. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il serait intéressant de regarder la liberté dans le cœur du Christ et de voir comment dans le Christ liberté et obéissance ne s'opposent pas. Pour nous, la plupart du temps, nous opposons liberté et obéissance. Ah, l'obéissance m'empêche d'être libre. Ça dépend à quel niveau vous vous placez. Je dirais que l'obéissance me permet d'être plus libre, contrairement à ce que dit Freud. liberté et obéissance. Alors, c'est très beau de regarder dans le cœur de Jésus, dans le cœur de cet homme parfait qui est notre Dieu, de regarder comment liberté et obéissance ne s'opposent en rien. Pour cela, il faut bien comprendre que la liberté morale, je ne parle pas de la liberté de l'artiste, faisons attention. Et très souvent, l'opposition vient parce qu'on confond le domaine de l'art et le domaine moral, le domaine éthique. Sartre confond tout le temps les deux. Il n'y a pas que Sartre. Mais Sartre, c'est particulièrement visible. C'est pour ça que je le prends. C'est particulier, puis c'est tout proche de nous. Vous voyez, l'artiste est libre. C'est vrai, ça. C'est ce qu'on voit le mieux dans l'artiste. Il a un type de liberté particulier. Et sa liberté provient de son inspiration. Plus un artiste inspiré, plus il est libre. Les artistes qui n'ont aucune inspiration, moi je ne sais pas s'ils sont encore des artistes. Je ne sais pas. C'est... Alors, ils ne sont pas libres du tout. Ils attendent les commandes. Mais ils sont ce que Épictète disait à propos des sénateurs. Vous croyez que vous êtes dépendant de vos commandes. On vous demande telle ou telle chose, alors vous le faites pour gagner votre soupe, pour gagner l'argent. Vous êtes finalisé par l'argent. C'est pas l'inspiration. Un artiste, un véritable artiste, il est dans l'inspiration. À ce moment-là, il est libre. La liberté de l'artiste se fonde sur l'inspiration, qui est une question de connaissance. La liberté de l'ami se fonde sur l'amour qu'il a de son ami. Et c'est vrai que l'amour d'amitié engendre une très grande liberté. Plus on aime, plus on est libre. Quand on aime vraiment, pas l'amour passionnel. L'amour passionnel crée en nous des nécessités tyranniques. L'amour spirituel engendre en nous une très grande liberté. Vous voyez, c'est important d'essayer de voir où naît la liberté, dans quel milieu la liberté naît. La liberté de l'artiste présuppose l'inspiration. La liberté éthique, morale, elle présuppose l'amour. Il y a un amour spirituel, un amour volontaire. Vous allez bien saisir ça. Quand on aime une personne profondément, on se libère d'une quantité de choses secondaires qu'on voit lointaines comparativement à cet amour vrai, profond, qui me lie à telle personne, à mon ami. C'est en ce sens-là que l'amour d'amitié nous libère d'une quantité de choses secondaires, des choses qu'on considérait comme absolument nécessaires dans notre vie, subitement dégringolent, tombent. Ça n'a plus d'importance. Tout le centre d'intérêt est porté sur l'ami, et tout le reste tombe. Alors, c'est très vrai que l'ami nous tient, il nous attire, il nous prend. Alors on dira, là on est plus libre, attention, on l'aime. L'amour est plus que la liberté, bien plus. L'amour possède un absolu, la liberté ne possède pas d'absolu. Ce reste très facile à comprendre. Si on croit en Dieu, la liberté n'apparaît en Dieu qu'avec la création. Avant la création, tout tout est nécessaire en Dieu. Nécessaire. Super nécessaire. Parce que nous, le nécessaire, c'est encore quelque chose qui, quelquefois, nous tyrannise. Tandis qu'en Dieu, c'est lui. Il est. La liberté en Dieu et dans la très sainte Trinité n'apparaît que dans l'acte créateur de Dieu. L'acte créateur de Dieu est absolument libre. Et donc là, on peut dire qu'on découvre cette liberté en Dieu qui est une liberté étonnante. Dans le cœur du Christ, dans le cœur de Marie, il y a une liberté merveilleuse à cause de l'amour que Jésus a pour le Père, à cause de l'amour que Jésus a pour nous. La liberté de s'offrir librement pour montrer qu'il nous aime. Il s'est offert librement et il s'est offert dans l'obéissance. Alors vous voyez là l'union grâce à l'amour de la liberté et de l'obéissance. Jésus a offert sa vie librement, nous le reverrons demain en voyant le mystère de la croix. Il a offert sa vie librement et pourtant il est mort dans l'obéissance. Alors regardez ce passage de la vie du Christ que vous connaissez bien, le grand mystère de l'agonie. C'est peut-être dans le mystère de l'agonie où nous voyons le mieux cette liberté et cette obéissance. Jésus entre en agonie au mont des Oliviers, portant sur lui toute l'iniquité du monde. C'est l'agneau de Dieu qui porte l'iniquité du monde. Jésus accepte d'être le seul responsable de tous les hommes pécheurs en face du Père. Ça, c'est le très très grand mystère de l'amour du Christ pour nous. C'est le très grand mystère de Jésus, grand prêtre, médiateur entre les hommes et Dieu. Il veut nous réconcilier avec le Père. Et pour cela, sachant que nous sommes incapables de payer la dette du péché, c'est lui qui veut la payer. C'est lui qui prend sur lui toutes les conséquences de toutes les fautes du monde. Il se présente en face du Père comme le seul responsable de toute l'humanité. On ne peut pas se représenter ce que c'est. Impossible. On y croit. Il entra en agonie. Je crois qu'il ne faut pas mettre le parallélisme de l'agonie et de l'angoisse. L'angoisse est psychologique. L'agonie est divine. Parce que facilement on le dit aujourd'hui. On dit que l'agonie c'est l'angoisse du Christ. Attention, il ne faut pas jouer sur les mots. On ne dit pas l'angoisse du reste. On dit la tristesse. C'est pas la même chose. Parce que consciemment et volontairement, Jésus porte toutes les conséquences du péché. Oui, tandis que l'angoisse n'est pas volontaire. Je n'ai pas du tout la volonté d'entrer dans l'angoisse. C'est quelque chose qui tombe sur moi, d'ordre psychologique. Et je ne sais pas comment lutter contre l'angoisse. Ce n'est pas commun du tout. Parce que c'est justement un poids m'annihile complètement, qui me met dans un état où je ne peux plus rien faire. Tandis que Jésus entra dans l'agonie volontairement. Volontairement, Jésus accepte d'apparaître en face du Père comme le responsable de tous les hommes, médiateur, porte sur lui toutes les conséquences du péché. Et il connaît cette tristesse à la fois sensible et, j'allais dire, une tristesse spirituelle de l'âme. Parce que il prend sur lui toutes les conséquences du péché. Et le péché est intolérable pour Jésus, puisque c'est toujours un manque d'amour. Surtout le péché d'orgueil, qui est le rejet de l'amour. Et Jésus, consciemment, volontairement, accepte de prendre au plus intime de son âme toutes ses conséquences du péché et donc le rejet de l'amour, lui qui n'est qu'amour. Alors on comprend cette tristesse qu'accable le cœur de Jésus, une tristesse telle qu'elle est capable de le faire mourir. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et c'est vrai, il a fallu la force de Dieu pour que Jésus ne meure pas de cette tristesse. Autrement, il serait mort de cette tristesse. Tristesse qui afflige son âme dans ce qu'elle a de plus vulnérable, sa capacité d'aimer. Aimer celui qui est son Dieu, celui qui est son Père. Et au milieu de l'agonie, il y a la prière du Christ. Mon Dieu, que ce calice s'éloigne de moi. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Vous voyez, la liberté et le désir de l'obéissance. Et ceci à l'intérieur même de l'agonie. Et c'est la grande prière de l'agonie. Père, que ce calice s'éloigne de moi. Alors, calice, ça reste quelque chose de symbolique. Il faut regarder l'Apocalypse pour bien comprendre cela. On parle des calices. Les derniers châtiments sont des calices. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cela? Quand Jésus dit à son Père, dans l'agonie, que ce calice s'éloigne de moi. Beaucoup ont dit, et disent encore, que ce calice, c'est la mort imminente. C'est pas faux. Devant la mort imminente, notre âme frémit. Parce que la mort est quelque chose d'insupportable à porter. Dans notre personnalité, puisque c'est une brisure, puisque c'est un châtiment, au point de vue chrétien, c'est insupportable. Et puisque on ne peut pas la reprendre. Jésus sait que lui la reprendra, c'est sûr. Et il sait que c'est une brisure de sa vie, de son âme et de son corps. Cette explication a quelque chose de juste, et je ne crois pas que c'est ça qui exprime ce qu'il y a de plus profond dans l'âme du Christ. Parce que Jésus a accepté la mort dès le point de départ. Vous voyez, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit à propos du premier acte de Jésus,
quand il est encore dans le sein de sa mère. Père, tu m'as formé un corps pour que je fasse ta volonté. Il accepte tout de suite l'offrande de la croix. Et quand il parle du mystère de la croix, et que Pierre n'est pas content qu'il parle de la mort et du rejet des grands prêtres et des pharisiens, Jésus n'hésite pas à lui dire « Arrière Satan !» Et donc Jésus, accepter pleinement le mystère de sa mort. Je ne vois pas comment, devant cette mort imminente, il puisse y avoir subitement ce retrait. Oui, au point de vue de la sensibilité, c'est vrai. Quand la mort est imminente, sensible, qu'on la touche presque, il y a instinctivement ce retrait. Mais en Jésus, les passions sont complètement dépassées par la volonté aimante de son cœur. C'est pour ça que je crois plutôt que ce calice, c'est la mort que Jésus doit subir telle que le Père veut qu'il la subisse. C'est-à-dire Marie au pied de la croix, Jean au pied de la croix, les saintes femmes présentes. C'est ça le calice. C'est pas seulement Jésus qui porte sa mort, mais c'est la mort du Christ qui s'étend, qui s'empare du cœur de Marie, du cœur de Jean, du cœur des saintes femmes. Je crois beaucoup plus ça. Alors là, je comprends. Parce que la joie, normalement, se partage. Un cœur royal, c'est un cœur magnanime, c'est un cœur grand. Il partage la joie. Mais il ne cherche pas à partager la souffrance. On partage normalement sa joie quand on est magnanime. Mais on veut souffrir seul quand on peut le faire. On n'a pas du tout envie de partager sa souffrance pour un cœur noble, pour un cœur fort. Jésus sait qu'il peut vivre pleinement le mystère de la croix. Jésus sait au plus intime de son cœur qu'il peut réaliser pleinement le salut, qu'il n'a besoin de personne, même pas de sa mère, que son sacrifice est infini dans ses effets, dans son résultat. Il le sait, ça, dans sa science infuse. Il connaît le prix de son sacrifice. Il est infini. Et donc, s'il est capable, seul, de réaliser la volonté du Père, sauver les hommes par le mystère de la croix. Il demande au Père d'être le seul à souffrir et d'épargner sa mère, que ce calice s'éloigne. Je crois que ça, c'est profondément naturel dans un cœur grand, dans un cœur royal. Jésus est le roi des hommes, et le roi de l'humanité, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Et donc c'est tout à fait normal que, tout proche de la croix, dans ce mystère d'agonie, Jésus supplie le Père d'épargner sa mère, et en épargnant sa mère, d'épargner Jean, les saintes femmes et toute l'Église. Jésus a demandé au Père que nous soyons épargnés du mystère de la croix, que nous soyons épargnés des souffrances et de la tristesse de la croix. Il y a là quelque chose de très grand pour découvrir la noblesse du cœur du Christ, puisqu'il peut réaliser le salut des hommes seul. Et c'est pour ça qu'il dit le calice, il ne dit pas la mort, il dit le calice, que ce calice. Et ça a un sens concret dans l'Écriture, c'est-à-dire l'ensemble des souffrances de la croix. Et l'ensemble des souffrances de la croix, c'est sa mort qui va entraîner Marie dans la même souffrance, le mystère de la compassion. Et le mystère de la compassion pour Jean, et le mystère de la compassion pour toute l'Église. Et immédiatement après cette demande, Jésus s'en remet au bon plaisir du Père, mais non pas ma volonté, mais la tienne. C'est bien ça l'obéissance. Non pas ma volonté. On fait sa volonté quand on est trop brouillé. La volonté du Christ, c'est justement d'épargner les autres. Et la volonté du Père, c'est d'accepter le calice tel qu'il se réalisera. Et si Jésus dit cela, c'est parce que dans son cœur d'homme, sanctifié par la grâce, il veut accomplir pleinement la volonté du Père, considérant cette volonté du Père comme infiniment supérieure à la sienne, à sa volonté humaine et divine. Il n'a qu'un seul désir, c'est d'accomplir la volonté du Père. C'est bien l'obéissance du Christ. Il est mort dans l'obéissance. C'est Saint Paul qui nous le dit. Il a accepté l'obéissance jusqu'au bout. Et c'est par obéissance qu'il a accepté la croix. Alors pourquoi cette volonté du Père? Cette volonté du Père que Jésus accepte en surcroît, au-delà de son désir d'épargner sa mère, d'épargner tous ceux qui entendront son appel et qui le suivront, d'épargner toutes ses brebis, tous les membres de l'Église. C'est parce que le Père veut que Marie achève, complète dans son cœur ce qui manque à la passion du Christ. Il faut bien comprendre cette affirmation. Saint Paul le dit. Il achève dans sa chair ce qui manque à la passion du Christ. Je viens de dire qu'il ne manque rien et que Jésus peut souffrir seul et qu'il ne manque rien et qu'il peut tout faire seul parce qu'il est Dieu. Mais cependant, il peut y avoir comme une extension du mystère de la croix. Non pas parce que la croix est imparfaite, non pas parce que Jésus a besoin qu'on l'aide pour que le mystère de la croix soit parfait. Le mystère de la croix dans l'âme du Christ est absolument parfait. C'est un mystère d'amour infini. Mais le mystère de la croix, c'est-à-dire l'holocauste de la croix, c'est-à-dire l'offrande que Jésus fait de sa vie, et une offrande de sa mort violente. Cette offrande peut être source d'autres offrandes, d'autres holocaustes. C'est du côté de l'extension. Et on pourrait dire qu'on ne peut rien ajouter au mystère de la croix du Christ du côté de l'intensité d'amour. Mais on peut comprendre une surabondance du côté de l'extension. Que le cœur de Marie puisse être plus uni au cœur du Christ à travers le mystère de la compassion. Et si le cœur de Marie est plus uni au cœur du Christ dans son mystère de compassion, il y a donc une nouvelle grâce pour Marie. Marie n'est pas seulement celle qui est rachetée par la croix, mais elle est celle qui est rachetée et qui coopère avec Jésus au salut des hommes. C'est pour cette coopération de la petite créature avec son Dieu que le Père veut que le calice se réalise tel qu'il le veut, pour que le mystère de la croix connaisse dans le cœur de Marie cette extension, cette surabondance. Marie vient achever, compléter le mystère de la croix à sa manière, dans cette nouvelle alliance d'amour. Et non seulement Marie, mais Jean, les saintes femmes et toute l'Église. Mais quand on voit le mystère d'une petite Marthe Robin, par exemple, à Châteauneuf, cette petite à qui Dieu a demandé de 1930 à 1981 de vivre toutes les semaines le mystère de la Passion du Christ. C'est bien la surabondance du mystère de la compassion qui continue dans l'Église. Quand Dieu demande à une mère de famille d'accepter la mort de sa fille, de son fils, qui meurt à 20 ans, 22 ans, c'est bien comme une extension du mystère de la compassion et donc du mystère de la croix. Et ceci pour glorifier le Père et montrer que l'amour de Dieu est plus fort que la mort et pour sauver les hommes. Voyez, cette liberté dans le cœur du Christ, il supplie le Père que le calice s'éloigne. C'est une initiative absolument libre, merveilleuse de spontanéité. Le jeune taureau, selon le symbolisme de l'Apocalypse, qui, au moment où il va s'offrir, connaît cette nouvelle liberté. Il est dans l'obéissance. Il est tout proche de la mort. Il l'a accepté dans l'obéissance. Il connais cette nouvelle initiative, cette prière, de demander au Père que le calice s'éloigne. C'est une merveilleuse initiative, libre, et en même temps, il remet tout entre les mains du Père. Il n'y a pas d'opposition entre cette liberté et cette obéissance. Il y a un lien, et ce lien, c'est l'amour du Fils à l'égard du Père. Cette plénitude d'amour du Fils à l'égard du Père.